Au chapitre 13 de sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul affirme que trois réalités sont essentielles, ou bien, autre traduction possible, que trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais, dit-il, l'amour est la plus grande. Oui, mes amis, pour nous chrétiens, ces trois réalités sont essentielles pour notre vie de tous les jours. Elles sont le fondement sur lequel nous pouvons construire toute notre existence. Ce sont la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions comprendre en quoi la foi est primordiale pour notre existence. En effet, sans confiance, la vie devient carrément impossible. Par exemple, il ne viendrait à l'idée d'aucun automobiliste arrivant à l'entrée du viaduc de l'autoroute qui, chez nous, contourne Yverdon, d'arrêter sa voiture pour avancer à pied et de sauter sur place pour vérifier que le viaduc est solide. Évidemment, non. Nous faisons confiance à l'ingénieur qui a fait les calculs et les plans de l'ouvrage, et bien entendu aussi aux ouvriers qui l'ont réalisé. Autre exemple, quand nous prenons le train, nous n'allons évidemment pas au début du convoi pour examiner la tête du conducteur de la loco pour savoir si elle nous convient pour éventuellement monter dans le train. Non, bien sûr, nous partons du principe que le mécanicien, le conducteur, est un professionnel compétent. Et ici aussi, comme dans des tas d'autres domaines, nous faisons confiance. Un autre exemple encore, les marins, navigateurs à voile sur la mer, connaissent bien cette sensation étrange quand il fait nuit et lorsque le ciel et la mer se mélangent en quelque sorte, lorsque l'œil humain a perdu tout repère apparent pour savoir où aller. Oui, dans ces nuits-là, alors la moindre lueur à l'horizon est guettée avec avidité. Et puis, une constatation là, un éclat. Le bateau peut être même à des dizaines de milles nautiques de son port d'arrivée, mais il suffit en effet du faible scintillement à peine perceptible au loin de la lumière d'un phare pour que le navigateur puisse alors vérifier sa route. Le port d'arrivée sera en vue tôt ou tard. Mes amis, l'auteur de la lettre aux Hébreux a-t-il lui aussi traversé la mer, la Méditerranée notamment? Je ne pense pas, mais sa description de la foi me semble-t-il rejoint pourtant l'expérience, en effet, d'une navigation de nuit. Il écrit ceci, « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. C'est dans la foi, sans même avoir connu la réalisation des promesses, que les croyants de l'Ancien Testament sont tous morts. Mais la promesse, en somme, ils l'avaient vue et saluée de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. » Sous-entendu, en route vers leur destination finale. À la différence de la science, qui n'espère rien, mais qui cherche à expliquer et à démontrer, la foi espère tout et anticipe sur ce qu'elle espère. Et ceux qui cherchent des preuves, comme on dit, de l'existence de Dieu, se trompent dans leur quête, car Dieu est quelqu'un à qui nous pouvons faire confiance, avec qui nous pouvons parler, dialoguer, qui nous accompagne. Dieu est une personne et non pas un savoir philosophique. Le navigateur, dans la nuit, espère donc le port, il ne le voit pas. Et la toute petite lueur du phare qui lui est donnée à un certain moment d'apercevoir ne fait en fin de compte que soutenir son espérance en lui permettant de croire qu'il est en effet dans la bonne direction. Nous avons écouté le début du chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, qui commence ainsi. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et c'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé, les croyants de l'Ancien Testament, ont été approuvés par Dieu. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est la façon de posséder ce que l'on espère, le moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Bref, la foi est une ouverture vers quelque chose qu'on attend et qu'on ne voit pas encore, ce vers quoi nous sommes en route. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre ici que la foi, c'est donc une confiance, un abandon à Dieu qui nous appelle, et parfois sans savoir vers quoi ou sans chercher à tout comprendre. Car cette confiance se fonde sur la conviction maintes fois répétée dans toute la Bible que Dieu nous aime et ne veut que notre bien, même si c'est vrai nous avons à passer parfois par des chemins que nous ne souhaitons pas. Et pour l'illustrer, l'auteur de l'Épître s'appuie alors sur l'itinéraire de foi de nombreux personnages de la Bible, scandant ses exemples à chaque fois avec l'expression « c'est par la foi que tel ou tel fit ceci ou répondit à l'appel de Dieu ». Car, dit-il au verset 6, « sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ». Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut ici savoir que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dont l'identité nous est inconnue, a justement écrit cette lettre dans le but d'encourager les croyants d'origine juive à persévérer dans la foi. Et ses destinataires judéo-chrétiens étaient en effet tentés d'abandonner la foi, d'abord parce qu'ils souhaitaient retourner au système des sacrifices de l'Ancien Testament notamment, et ensuite parce qu'ils subissaient, ayant pris une autre option avec le Christ, ils subissaient la pression des critiques, des oppositions, des persécutions de leurs anciens co-religionnaires. Ils étaient donc tentés de tout laisser tomber. Dès lors, tout au long des chapitres 1 à 10 de la lettre, l'auteur répond à leur première tentation en leur présentant précisément une complète argumentation pour leur démontrer que Jésus a parfaitement accompli le but et la signification des sacrifices de l'Ancien Testament. Il est, lui, supérieur à tout cela. Conclusion, ne retournez donc pas à l'ancien système. Et puis, à partir de la fin du chapitre 10, dans notre chapitre 11, l'auteur répond à leur deuxième tentation. Il leur écrit en quelque sorte, « Même si vous souffrez des épreuves et des persécutions, ne retournez pas en arrière. Vous avez mis votre foi en Jésus-Christ. Et mettre sa foi en Dieu, écrit-il, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Mes amis, ce n'est pas la pensée positive qu'on veut nous vendre aujourd'hui pour regonfler nos espoirs en des jours meilleurs. Non, quand on ne croit plus en l'Évangile, d'ailleurs, on est prêt à croire n'importe quoi. « Croyez et vous verrez, tout va bien aller, nous dit-on. Peu importe en quoi ou en qui vous croyez, pourvu que vous y croyez. Ayez foi en vos projets, en vos moyens, en votre bonne étoile. » Mais tout cela, nous le savons, c'est du vin. Cela dit, la foi n'est pas non plus une simple intuition ou un sentiment. Elle n'est pas aveugle. Non, la foi est une réponse personnelle à la parole de Dieu. Lorsque nous décidons alors de faire confiance à ce que Dieu nous dit. La foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il existe bel et bien des choses réelles qui sont invisibles à nos yeux. Or, la foi est la conviction irréfutable que certaines de ces choses invisibles sont en fait déterminantes pour notre vie. Eh bien, par la foi, avec les yeux de la foi, nous recevons la capacité de voir, de sentir, de pressentir ces réalités invisibles, de les expérimenter. Nous devenons capables de les voir par la foi. Et c'est cette capacité qui nous est accordée et qui nous donne l'énergie pour affronter les difficultés de ce monde, dit l'auteur de l'Épître. Car une chose est certaine pour lui, comme pour nous, tous ceux qui sont cités dans notre chapitre 11 n'ont pas été épargnés, au contraire. La foi ne les a pas protégés, elle les a au contraire largement exposés à l'épreuve, à la persécution, au malheur innocent. Et je cite l'auteur. « Certains, dit-il au verset 35 et suivant, certains ont été torturés et n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée, sous-entendu reniant leur foi, car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. Et puis d'autres ont subi l'épreuve des moqueries et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Ils allèrent çà et là, manquant de tout, harcelés et maltraités. » Non, la foi n'est pas un parapluie. La foi chrétienne ne protège pas des épreuves, mais elle nous permet de les traverser sans cesser d'espérer. La foi n'a rien d'un parapluie confortable qui nous mettrait à l'abri, et qu'ils sont nombreux, ceux et celles qui ont vécu tout le contraire, qui ont été exposés, en effet, aux persécutions, au mépris des puissants, jusqu'à devenir, écrit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 4, jusqu'à devenir le rebut de l'humanité, l'ordure du monde. La foi n'a pas non plus garanti, d'ailleurs, la réalisation de la promesse du vivant de ceux qui ont fait confiance à Dieu dans l'Ancien Testament, du vivant de Joseph, par exemple, qui n'a pas vécu l'Exode, ou de Moïse, qui n'est pas entré en terre promise, et même de Jésus, qui est mort lamentablement abandonné de tous. Si nous pensons que la foi chrétienne n'a pour but que de nous procurer un mieux-être personnel ici-bas, nous nous trompons lourdement. Or, malheureusement, ce qui intéresse la plupart des gens n'est pas Dieu en lui-même, mais ce que Dieu peut leur apporter. Et à ce propos, disait déjà Maître Eckhart, qui fut un chrétien et un théologien d'une profonde spiritualité, il l'écrivait au Moyen-Âge, « Ceux-là, ils aiment Dieu comme on aime une vache, c'est-à-dire pour sa viande, son lait, son cuir, mais pas pour elle-même. » La foi n'est pas une assurance confort et réussite. Au contraire, elle fait prendre des risques, fait faire des choix à contre-courant parfois. Elle peut même susciter l'hostilité, car elle dérange. Elle nous expose au lieu de nous mettre à l'abri. Mais, par exemple, Moïse nous a-t-il dit, c'est au verset 25-26, « Choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu, regardait plus loin. » Mes amis, la foi, c'est regarder plus loin. Serions-nous alors plus grands que Moïse, qui, par la foi, navigua ainsi de nuit jusqu'à apercevoir le but, mais sans pouvoir l'atteindre? Serions-nous plus forts, plus grands que le Christ qui, à Gethsémané, lutta par la foi contre la tentation de renoncer, priant toutefois, « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Dès lors, mes amis, nous aussi chrétiens, avançons dans la foi, naviguons chacun dans notre nuit sans quitter des yeux la lumière qui là-bas nourrit notre espérance. Car c'est la foi, la confiance que l'on peut placer en Dieu, qui rend présent l'avenir et visible l'invisible. C'est ce qui fait notre force de chrétien, c'est-à-dire de croyant. Elle réalise les choses que l'on espère, comme si on les tenait déjà. D'où la conclusion de l'auteur au début du chapitre 12, je vous la lis. « Puisque nous sommes entourés de cette grande foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Et dit-il, courons résolument la course qui nous est proposée. » Et il ajoute, c'est là l'essentiel, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Alors pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. » Oui, mes amis, c'est par leur foi, par leur confiance placée en Dieu seul, que les anciens ont reçu le témoignage qu'ils étaient agréables à Dieu. Alors comme eux et à leur suite, nous sommes appelés à aller de l'avant nous aussi, en nous sachant étrangers, c'est vrai, et voyageurs sur la terre, mais gardant le cap sur l'horizon des choses célestes et nos yeux fixés sur la personne de Jésus-Christ, notre phare et notre unique espérance. Mais une chose est certaine ce matin, mes amis, je ne vais pas vous dire qu'il suffit de croire en Dieu pour que tout aille bien. Non, car je sais que tous, un jour ou l'autre, traversant des moments difficiles, oui, tous, nous connaissons, nous pouvons connaître une crise dans notre foi en Dieu. Je sais que face au décès d'un être proche ou trop tôt disparu, face à un handicap, à une maladie grave qui nous tombe dessus, face à des échecs, etc., face à tout cela, personne ne peut simplement dire « J'ai confiance en Dieu, tout va très bien, Madame la Marquise. » Alors, acceptons que l'expérience du doute soit parfois nécessaire pour notre foi, car ce n'est qu'à travers elle que celle-ci peut paradoxalement grandir et s'affermir et mûrir qu'au travers de l'épreuve. La confiance en Dieu n'a donc rien à voir avec une crédulité béate et fataliste qui s'exprime dans une fuite de la réalité où il n'y aurait plus rien à faire, plus rien à entreprendre, plus à lutter, où il suffirait de faire sa prière pour que tout puisse bien aller. La confiance en Dieu doit être une confiance qui nous permet, malgré nos tempêtes et dans nos nuits, de continuer à naviguer les yeux fixés sur l'horizon de Dieu. Cela dit, notre confiance, je le répète, ne nous apporte pas à coup sûr la victoire sur les difficultés. Et il est des tempêtes et des difficultés que nous ne vaincrons pas. Il est des sommets et des courses de montagne qui ne sont pas à notre portée, même si elles le sont pour d'autres. Alors, je vais le dire en conclusion, je crois que malgré les difficultés et les épreuves, même si elles ont apparemment le dernier mot, et je pense ici bien sûr à la mort, nous pouvons garder confiance en Dieu, qui lui aura le dernier mot. La victoire du matin de Pâques est notre garantie. Alors gardons-lui notre confiance, qui nous permet d'affronter avec courage et persévérance, avec lucidité et sérénité, les drames et les épreuves de la vie. La confiance ne rend pas toujours victorieux, c'est vrai, mais placée en Dieu, elle demeure cette réalité essentielle qui me permet malgré tout et avec lui de vivre ma vie, de la vivre pleinement, cette vie, et sans comparer avec celle des autres, cette vie que j'ai reçue, de la vivre avec ses hauts et ses bas, et quoi qu'il arrive. Et pour le reste, mes amis, et pour toi aussi qui m'écoutes, appuyons-nous avec confiance sur cette promesse que Dieu nous renouvelle à chacun aujourd'hui. La voici. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Amen.